Radio Okapi.
Bienvenue à l'écoute de ce journal. D'abord les titres. Dans les territoires de Beni, le chef de secteur de Benimbaou a adressé certaines recommandations aux candidats députés provinciaux et nationaux qui projettent de battre campagne dans son entité. Célébration ce 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette date marque également le début de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. L'invité du journal est le lieutenant-colonel Charles Lenoir, chef adjoint des opérations de la MONUSCO. Il fait le point sur la situation sécuritaire du Nord Kivu au cours de cette semaine qui s'achève, mais aussi les actions menées par les casques bleus. Tout d'abord, cette nouvelle. La RDC ne va pas renouveler le mandat de la force régionale de l'EAC au-delà du 8 décembre 2023. Cette décision, déjà annoncée par le gouvernement congolais depuis quelques mois, a été actée lors du 23e sommet des chefs d'État de l'EAC tenu ce vendredi à Arusha, en Tanzanie. Cette annonce est faite par la présidence de la RDC. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Dans les territoires de Beni, le chef de secteur de Benimbaou a adressé certaines recommandations aux candidats députés provinciaux et nationaux qui projettent de battre campagne dans son entité, ceci dans le cadre d'une campagne apaisée au sein de la communauté. Le condensé de sa correspondance dans ce récit de Marc Maro Fimbo.
Dans une correspondance adressée aux différentes couches de la société civile rendue publique jeudi 23 novembre 2023, le chef de secteur de Benimbaou, Kakule Sivi Weleon, a tout d'abord demandé à ses candidats de présenter leur calendrier d'activité aux autorités locales, tout en sachant que deux candidats ne peuvent pas se manifester ou battre campagne à un même endroit à la fois. Léon Kakule Sivi Weleon a demandé aux candidats de bannir la culture de la haine, du tribalisme et des actes de vandalisme lors de leurs activités. À toute personne, quel que soit son rang, il est interdit de déchirer ou d'arracher les fusils ou les calicots d'un candidat affiché sur les lieux publics pour suivre la dite correspondance. Ensuite, quiconque mènera sa campagne dans des églises sera mis aux arrêts par les services compétents, car les églises sont apolitiques, souligne cette correspondance. Et enfin, les candidats qui ira à la compte du présent message et toutes les personnes mal intentionnées ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, conclut cette correspondance. Par ailleurs, cette autorité administrative a rassuré la population du secteur de Benimbaou que l'opération de livraison de duplicata aux électeurs dont les pièces d'identité ou d'électeurs sont illisibles sera effectuée très prochainement. La machine est déjà disponible au bureau du secteur. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis, dans le cadre de son nouveau programme qui donne la parole aux différents candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023, Radio Okapi reçoit ce samedi Noël Tchani, candidat numéro 19. Il dit se présenter à la présidentielle persuadé que, de tous les leaders qui ont géré le pays depuis 1960, il est le seul à avoir une expérience capable de sortir la RDC du sous-développement vers un pays émergent. Sa vision de développement s'articule autour du plan Marshall de Noël Tchani pour le redressement économique et la reconstruction de la RDC, ce qui permettra d'améliorer la qualité de la vie des populations congolaises selon Noël Tchani. On l'écoute au micro d'Alain Irung et Cynthia Bachizi Nabizana.
Je me suis posé la question de savoir est-ce que je peux offrir mieux que ceux qui ont géré le Congo jusqu'à présent. Ma réponse est oui. Pourquoi ? Parce que je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Après Dauphine, j'ai fait un programme postdoctoral en leadership et management à l'Université de Harvard aux États-Unis, la même université qui a formé les Barack Obama, qui a formé les Kennedy, et ainsi de suite. Et après avoir terminé les études, j'ai travaillé pendant 40 ans dans les banques commerciales et d'investissement à New York comme banquier commercial, banquier d'investissement, dans la plus grande banque du monde d'ailleurs, JP Morgan Chase. Et après cela, je suis allé à la Banque mondiale où j'ai été directeur du pays, gérant les programmes de développement dans plusieurs pays de la planète, en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et en Amérique latine. J'ai l'expérience qu'aucun leader congolais qui a géré ce pays depuis 1960 jusqu'aujourd'hui n'a. Pendant que les autres n'étaient pas préparés pour gérer le pays, ils sont arrivés accidentellement au pouvoir. Je suis préparé jusqu'aux dents pour faire la différence.
Notez que vous pouvez suivre l'interview de Noël Tchani dans son intégralité à 8h30, 15h30 et 20h de Kinshasa sur Radio Okapi et à tout moment sur toutes nos plateformes numériques. Autre nouvelle à présent, à Kinshasa, la CENI a ouvert des bureaux de délivrance et de duplicata de cartes d'électeurs dans toutes les maisons communales, là où il y avait déjà des antennes. Celles-ci ont été renforcées en équipement. C'est le cas de l'antenne située dans la maison communale d'Ingaliema. Comment cela se passe sur terrain? Babel Mpongo Masimango s'y est rendu. Suivez son reportage.
Ils ont bravé la pluie, ils étaient près de 200 jeudi avant midi. Beaucoup étaient plutôt patients, mais certains se lamentaient.
Passer toute la journée ici, c'est pas quand même sérieux.
Les femmes enceintes, celles ayant des bébés, les personnes âgées, les malades et autres avec handicap passent en priorité. Ensuite viennent ceux qui ont inscrit leur nom sur la liste le matin selon l'ordre d'arrivée. À 11h45, les premiers inscrits sont servis.
Makanda.
C'est seulement aujourd'hui, je suis arrivée ici à 6h. Ma carte d'électeur était effacée. Je suis contente. Puisque ça se voit, mais les écritures sont claires.
Pour Didier Ndoko, chef d'antenne, le travail est plus rapide grâce au renforcement en matériel.
On avait 2 salles avec 3 machines. Maintenant, nous avons 3 salles avec 5 machines. Les dispositifs mis en place par nos autorités actuellement nous aident en moindre minute de pouvoir produire autant de cartes voulues. D'ailleurs, les cartes sont déjà sur ma table. Je suis en train de signer. Le 22, nous avions eu à délivrer 689 cartes d'électeurs duplicata. Chose qu'on n'a jamais fait depuis le début de cette activité, depuis le 3 août.
Pour rappel, la CENI a ouvert des sites de délivrance et duplicata dans toutes les maisons communales de Kinshasa.
Je vous le disais en titre, célébration ce 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette date marque également le début de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Selon ONU Femmes, qui est parmi les organisateurs de cette campagne, ces 16 jours sont un appel à l'action et un rappel sur le fait que la violence contre les femmes et les filles est la violence des droits humains la plus répandue dans le monde. Le thème retenu cette année est Tous unis, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. Thérèse Kankou nous en dit plus.
Plus de 38 000 cas de violences basées sur le genre ont été signalés pour toute l'année 2022 dans le seul Nord Kivu, selon un rapport de l'UNICEF de 2023, soit une augmentation de 37% au cours des 3 premiers mois de 2023 par rapport à la même période il y a un an. La problématique des violences basées sur le genre en RDC ne se limite pas aux violences sexuelles. Une autre analyse des données de l'enquête démographique et des santé 2013-2014 sur les violences domestiques réalisées par les centres régionaux de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans les Grands Lacs a démontré l'importance et la prévalence d'autres types de violences. Violences physiques, violences émotionnelles ou psychologiques. Et dans l'ensemble, près de la moitié, soit 42,8% des femmes congolaises ont déclaré en 2013 avoir subi l'un ou l'autre type. À l'occasion de ces 16 jours des campagnes d'activisme contre les violences basées sur le genre, ONU Femmes affirme qu'il n'y a pas d'excuse à la violence contre les femmes et les filles. C'est pourquoi elle demande, entre autres, que les organisations œuvrant pour les droits des femmes bénéficient d'un soutien et d'investissement pour continuer de jouer un rôle essentiel dans la prévention et l'élimination des violences contre les femmes et les filles.
Dans la province de la Pour la crise née du conflit intercommunautaire entre les Mbolé et les Lingola est consécutive au manque de transparence et de communication. C'est ce que déclare le gouverneur honoraire de la province orientale Jean Bamanissa Saïdi au cours d'un point de presse qu'il a animé hier à Kisangani. Pour lui, il faut engager des rencontres urgentes avec les leaders communautaires afin d'atténuer ces conflits avant de se lancer dans la sensibilisation en vue d'extirper l'esprit des tueries dans les têtes des gens. Ces propos ont été recueillis par Jacques Mukonkole.
C'est toute la communauté à travers ces leaders qui doivent se sentir concernés par cette question et qui doivent s'impliquer. D'expérience qui se vit à Bouya, une fois qu'il y a un problème dans la tête, il faut vraiment un long processus pour enlever cet esprit-là qui pousse les gens à les tuer. C'est tout un processus scientifique qui doit être mis en place. J'avais préconisé qu'il y ait d'abord les réunions d'harmonisation entre les leaders d'opinion de la province sur les dispositions pratiques et d'atténuation des conflits de cohabitation et qui devraient impliquer le gouvernement provincial, la coordination de la société civile, les représentants des communautés, on devrait aboutir sur l'atténuation urgente des violences et engagement collectif pour les actions communes de paix et cohabitation pacifique. Il faut sensibiliser et conscientiser les différents groupes des communautés en conflit sur la nécessité de la paix et de la culture de la tolérance. Et les stratégies pour faire ça, ce sont des réunions, ce sont des barzas, ce sont des communications dans les églises, dans les marchés, dans les écoles, les universités, les médias, et il faut faire aussi des activités culturelles, sportives, sociales entre les communautés.
En Ituri, le Comité international de la Croix-Rouge a rendu public son rapport annuel des activités réalisées depuis novembre 2022 dans les territoires de Djougou, Irumu et une partie de la ville de Bounia. Dans une communication à la presse ce vendredi, le chef adjoint de la sous-délégation du CICR Ituri indique que plus de 510 000 personnes ont reçu de l'aide humanitaire. Le point avec Marie-Nema Magira.
D'après le CICR, au cours du mois de novembre 2023, à Djougou, sous l'axe Iga Barrière jusqu'à Kilou Ita, plus de 8 000 familles ont reçu un soutien de relèvement économique, des dons en médicaments et plus de 4 700 appels effectués pour établir les liens familiaux pour les personnes déplacées. En territoire d'Irumu, un demi-million de personnes ont reçu l'assistance composée des kits alimentaires, des semences, mais également des articles ménagers essentiels. À Bounia, au quartier d'Elé précisément, le CICR a construit un réseau d'eau potable qui dessert plus de 16 000 ménages, mais aussi le centre de réhabilitation physique établi au sein de l'hôpital Rancolé, qui jusqu'à présent a bénéficié à 200 personnes en situation de handicap. Malgré toutes ces réalisations, le besoin humanitaire restait énorme dans diverses localités de la province de l'Ituri, a reconnu le chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge à Bounia, Clarence François.
Nous pouvons nous réjouir de ce qu'on a pu faire cette année. N'empêche que, en termes de besoins sur le terrain, nous constatons que le besoin est encore là. Nous allons continuer à renforcer tout ce qu'on a pu faire cette année, peut-être réorienter notre focus en fonction des moyens qui nous seront alloués l'année prochaine.
Pour rappel, c'est depuis 2021 que le CICR a relancé ses activités dans la province de l'Ituri. Bounia, Marie-Nema Magira, Radio Okapi.
Plus de 5 millions de décès associés à la résistance aux antimicrobiens en 2019. Ce rappel est fait par la quadripartite OMS, OMSA, le PNUE et la FAO. Ceci est contenu dans un communiqué de presse publié dans le cadre de la Semaine mondiale de la sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens célébrée du 18 au 24 novembre 2023. Occasion pour ces organisations mondiales de souligner l'importance de l'éducation et de la formation afin de préserver l'efficacité de ces médicaments. Occasion également pour l'autorité congolaise de régulation pharmaceutique à Corep de sensibiliser sur la menace liée à l'usage abusif des antimicrobiens, notamment les antibiotiques, antibactériens et des antiviraux. On écoute Léon Thibobois, pharmacien et directeur en charge de la pharmacovigilance et ses cliniques et lutte contre la résistance aux antimicrobiens, joué par René Capita.
La résistance aux antimicrobiens, c'est un fléau mondial. Alors, il faut que tout le monde s'implique pour que les molécules qui circulent actuellement, les antibiotiques, les antiparasitaires, les antiviraux, il faut qu'ils puissent rester efficaces contre les infections bactériennes. La sensibilisation en question concerne au plus haut point les décideurs politiques. Nous nous adressons aussi aux prescripteurs, de sorte que les attitudes et les comportements puissent changer. Faire en sorte qu'il y ait un bon diagnostic, une bonne prescription médicale, qu'il y ait des bons médicaments qui ne sont pas falsifiés et que les doses prescrites doivent être respectées pour que les molécules soient efficaces et que la population soit en bonne santé.
Comment amener les parties prenantes à intégrer le VIH dans les plans humanitaires en RDC? C'est la question qui a servi d'échange lors de l'atelier de réflexion sur l'intégration du VIH-Sida dans la réponse humanitaire à Kinshasa, un atelier organisé par le Programme national multisectoriel de lutte contre le Sida PNMLS en sigle, en collaboration avec l'ONU Sida, le HCR ainsi que d'autres agences co-sponsors. Selon le secrétaire exécutif national du PNMLS, la non-prise en compte du VIH dans la réponse humanitaire risquerait de rendre nuls tous les efforts consentis dans l'atteinte des objectifs auxquels la RDC est alignée. Docteur Lieve Kapende, au micro des Merveilles Assani.
Et donc ensemble, on réfléchit, nous avons avec nous les partenaires, nous avons avec nous tous ceux qui interviennent dans la situation humanitaire et nous voulons qu'ensemble nous voyons dans quelle mesure nous pouvons insister pour que la lutte contre le sida apparaisse parmi les mesures qui sont prises lors d'une situation humanitaire. La situation humanitaire, c'est d'abord une situation qui exacerbe la vulnérabilité. Exemple, quand vous avez déplacé, d'abord ils abandonnent les services qu'ils recevaient dans là où ils étaient. En plus, ils sont en manque de presque tout, ce qui fait qu'en fait, ça devient des personnes vulnérables pour lesquelles, comme l'exemple qu'on vous a donné, les pauvres filles du Nord Kivu qui doivent donner leur course chaque jour pour presque pour 500 francs. Conséquence, c'est que n'importe qui peut leur laisser le VIH, peut-être accidentellement, mais peut-être aussi volontairement.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, l'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a obtenu ce 24 novembre 2023 une libération conditionnelle effective à compter du 5 janvier 2024, 10 ans après le meurtre très médiatisé de sa petite amie Riva Steenkamp. L'ex-superstar du sport sud-africain qui avait été condamné à 13 ans et 5 mois de réclusion en 2017 par la Cour suprême d'appel va bénéficier d'une liberté conditionnelle à compter du 5 janvier 2024, a déclaré l'administration pénitentiaire sud-africaine dans un communiqué à l'issue des délibérations d'une commission ad hoc dans une prison proche de Pretoria où l'ancien athlète paralympique est détenu.
L'invité.
La situation sécuritaire cette semaine qui s'achève a été marquée par des incidents enregistrés dans la zone de Rwindi-Kibirizi au Nord Kivu, mais aussi à Ituri. Le lieutenant-colonel Charles Lenoir, chef adjoint des opérations de la MONUSCO, nous fait le point sur ces incidents ainsi que les actions menées par les casques bleus dans cet entretien avec Sifa Maguru.
Bonjour, lieutenant-colonel Charles Lenoir.
Bonjour, madame.
Pour commencer, qu'est-ce qui s'est-il passé cette semaine dans la région des Rwindi-Kibirizi?
Oui, effectivement, suite aux événements que vous connaissez avec le M23, la MONUSCO a déployé des forces plus au nord de cette zone d'affrontement dans la région de Rwindi-Kibirizi. Or, le 17 novembre, un convoi de la MONUSCO qui se déplaçait de Rwindi vers Kibirizi pour rassurer la population, assurer la protection des civils et empêcher le M23 de progresser plus au nord, a été arrêté par la population locale ainsi que par des Wazalendo. Voyant l'agitation de ces derniers, la MONUSCO, afin de désamorcer la situation, a décidé de quitter la zone. Nous croyons que la raison de ce blocus est un incident récent à Kisheshe, où la MONUSCO avait déployé une patrouille pour assurer la protection des civils. Malheureusement arrivée dans ce village, elle a découvert que la plupart des habitants avaient quitté la zone et a donc décidé de rentrer vers sa base de départ. Or, il se trouve que malheureusement, Kisheshe a ensuite été prise par le groupe armé M23 une fois que la MONUSCO avait quitté cette zone. Les habitants ont donc eu une fausse impression et ont été également victimes de fausses rumeurs. Cette fausse impression est que la MONUSCO aurait intentionnellement quitté Kisheshe pour qu'elle soit ensuite prise par le M23. Et je tiens à affirmer ici que ceci est totalement faux. En effet, les forces de la MONUSCO se sont rendues dans un autre village à Rwindi qui est plus peuplé, justement pour assurer la protection des civils. Bien sûr, la MONUSCO comprend les doléances de la population locale de cette zone et nous entendons bien regagner la confiance locale. Cependant, le message que nous souhaitons faire passer, c'est que les habitants doivent bien comprendre que la perturbation des mouvements, des convois de la MONUSCO auront un effet négatif sur la sécurité de la zone et rendra la population plus vulnérable aux attaques des groupes armés. Je tiens à rappeler que la situation sécuritaire est presque toujours meilleure dans les zones où les forces de la MONUSCO sont présentes. Bien sûr, nous comprenons que les habitants souhaiteraient toujours que la MONUSCO en fasse plus. Cependant, cette même population doit comprendre les réalités de la capacité des troupes, les difficultés du terrain, la mobilité limitée en raison des infrastructures routières, le niveau de la coopération locale et l'environnement politique qui ont tous un impact sur ce que la MONUSCO peut accomplir. Nous ne pouvons pas être partout à la fois et nous ne pouvons pas protéger les zones dans lesquelles nous ne sommes pas présente. Je souhaite cependant rappeler que sans la présence de la force de la MONUSCO, il y a souvent plus de violence, plus de criminalité et moins d'aide humanitaire. Ceux qui fuient la violence et qui cherchent refuge près des bases de la MONUSCO, en particulier les femmes et les enfants, savent que c'est vrai, mais ce sont souvent des récits qu'on n'entend pas, et ce sont souvent les récits de ceux qui souhaitent exploiter l'instabilité à leurs propres fins égoïstes qui sont propagés, notamment via les réseaux sociaux. Donc pour cette raison, je souhaite rappeler que les déplacements des forces de la MONUSCO doivent être facilités pour la sécurité des populations locales. La MONUSCO n'est qu'en partenariat avec les FARDC et la population locale contre tous les groupes armés. Les sections locales, la population, les groupes locaux devraient apporter leur soutien aux opérations conjointes de la MONUSCO et des FARDC.
Pour ce qui concerne l'Ituri, nous avons appris qu'il y a eu des incidents entre le casque bleu et la milice Codeco à Lengue. Qu'est-ce qui s'est-il passé?
Le 19 novembre, la MONUSCO a déployé une patrouille à Lengue et à Dendro, dans la région de Djougou, en réponse à une attaque d'éléments de la Codeco qui avait fait 2 blessés parmi les civils. Or, en arrivant à Lengue et alors qu'elle se dirigeait vers Dendro, la patrouille a essuyé des tirs venant du sud près du village de Ngopu. La patrouille a ensuite manœuvré pour trouver un point d'observation autour de la zone et ces patrouilles ont continué à essuyer des tirs venant de 2 directions différentes. Il semble donc bien que les Codeco aient délibérément tendu une embuscade à la patrouille de la MONUSCO qui s'est ensuite positionné autour des hauteurs des 2 côtés de la route. Les 2 véhicules blindés ont riposté et la patrouille a lancé une contre-attaque. L'échange des tirs s'est poursuivi pendant environ 30 minutes. Et en raison des représailles et de la riposte des forces MONUSCO, le groupe de Codeco s'est retiré et la patrouille a pu sortir de la zone d'embuscade. Nous souhaitons rappeler que la force de la MONUSCO reste déterminée à s'interposer entre les groupes armés et les civils innocents afin de protéger la population locale.
Lieutenant-colonel Charles Lenoir, merci.
Et c'est la fin de ce journal, supervisé et coordonné par Alain Rung, mis en onde par Alain Goy et présenté par Fulbert Balolagué. Merci de l'avoir suivi.